Aujourd'hui, on parle énergie fossile et ça tombe bien parce qu'il se passe quelque chose d'inédit en Colombie. Au programme, un sommet alternatif au COP, l'interview d'un militant sud-africain marquant et puis un chiffre vertigineux sur les super-profits du secteur. Sacha, on commence par Santa Marta?
Volontiers, Alex. Donc, selon Reporter, du 24 au 29 avril, la ville de Santa Marta, sur la côte caraïbe colombienne, accueille le tout premier sommet international entièrement dédié à la sortie des énergies fossiles. C'est une initiative conjointe de la Colombie, présidée par Gustavo Petro, et des Pays-Bas. Et ce qui est notable, c'est que ce sommet est né d'un ras-le-bol explicite face à l'inefficacité chronique des scopes onusiennes.
Et c'est assez assumé politiquement, parce que Trump, Milley et toute la fine fleur des climato-sceptiques ne sont tout simplement pas invités.
Exactement. C'est une rupture diplomatique intéressante. Les COP fonctionnent au consensus, ce qui veut dire concrètement qu'un seul pétro-État peut bloquer une décision ambitieuse. Souviens-toi de la COP 28 à Dubaï, présidée par le patron d'une compagnie pétrolière, ou de la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Là, en excluant les saboteurs, on tente une coalition des volontaires. C'est pragmatique, mais ça pose aussi la question de la légitimité d'un processus parallèle.
La France y est présente, ce qui est presque surprenant vu le double discours habituel de Paris sur le sujet. On signe des accords climatiques d'un côté et de l'autre, Total Energies continue à ouvrir des projets pétroliers en Ouganda ou au Mozambique.
C'est tout le paradoxe. Présence diplomatique ne vaut pas engagement contraignant. Et c'est précisément ce que dénonce Kumi Naidoo qu'on retrouve dans l'entretien sur RFI.
Oui, parlons-en. Kumi Naidoo, c'est une figure historique, ancien dirigeant de Greenpeace International et d'Amnesty International. Et il dit une phrase qui m'a marquée. Il croyait plus jeune que l'environnement, c'était un truc pour les blancs et les riches.
C'est une trajectoire militante très révélatrice. Naidoo a grandi sous l'apartheid en Afrique du Sud. Il vient de la lutte antiraciste. Et son cheminement, c'est de comprendre que la question climatique n'est pas un luxe occidental, mais qu'elle frappe d'abord et plus durement les populations du Sud global, les pauvres, les racisés. Les inondations au Pakistan, les sécheresses au Sahel, ce ne sont pas des préoccupations de bobos parisiens.
Et aujourd'hui, il préside une initiative pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles, sur le modèle du traité nucléaire. L'idée étant que, tant qu'on ne s'attaque pas à l'offre, à l'extraction elle-même, on tournera en rond.
Et c'est là le point théorique central. Les COP, depuis Kyoto en 1987 jusqu'à Paris en 2015, se concentrent sur la demande, sur les émissions. On parle de quotas, de marché carbone, de neutralité à 2050, mais on ne parle quasiment jamais des producteurs. Ce traité de non-prolifération, soutenu par une douzaine d'États, surtout des petits États insulaires, plus le Vanuatu, la Colombie, vise à interdire de nouveaux projets d'extraction. C'est une approche rough, beaucoup plus radicale.
Plus radicale et beaucoup moins confortable pour les majors. Ce qui nous amène au troisième article, et là je préviens, accrochez-vous, 3 000 $ de bénéfices par seconde.
Le chiffre est d'Oxfam, publié justement le 27 avril, en plein sommet de Santa Marta, ce qui n'est évidemment pas un hasard de calendrier.
6 entreprises seulement, attention, 6, qui devraient engranger 94 milliards de dollars de bénéfices en 2026. Ramené à la seconde, ça fait 3 000 $, soit environ 2 560 €. Pour donner une échelle, c'est plus que le salaire mensuel médian français, gagné chaque seconde par 6 entreprises.
Et là, on touche au cœur du problème politique. Ces super-profits ne sont pas le fruit d'une innovation ou d'une efficacité particulière. Ils découlent largement de la flambée des prix consécutive à la guerre en Ukraine, et avant ça, à la reprise post-Covid. C'est une rente, au sens économique strict du terme. Une rente captée par une poignée d'actionnaires pendant que les ménages européens, eux, ont vu leurs factures exploser.
Et pendant qu'on demande aux gens de baisser le chauffage à 19 degrés et de faire du vélo, le décalage moral est assez sidérant.
Il l'est. Et politiquement, ça pose la question d'une taxation massive de ces super-profits. L'Union européenne avait timidement instauré une contribution exceptionnelle en 2022, mais largement contournée et terminée. Aux États-Unis, sous Trump, c'est l'inverse. On déréglemente à tout va. Le retour de Trump à la Maison-Blanche change complètement la donne géopolitique sur ce dossier.
Et c'est aussi pour ça que le sommet de Santa Marta a du sens, non? Parce que si on attendait un consensus mondial, incluant Washington et Buenos Aires, on attendrait jusqu'à ce que Miami soit sous l'eau.
C'est l'argument des organisateurs, oui. Maintenant, je reste prudent. Une coalition sans les plus gros pollueurs, ça peut produire des déclarations vertueuses sans effet réel sur les flux pétroliers mondiaux. Le vrai test, ce sera de voir si des engagements contraignants émergent, notamment sur le financement de la transition pour les pays du Sud, qui est le grand point bloquant depuis des décennies.
Sur ce financement, justement, Naidoo insiste dans l'entretien RFI sur la dette climatique. L'idée que les pays industrialisés qui ont émis l'essentiel du CO2 depuis 1850 doivent payer.
Et c'est juste, historiquement et moralement. L'Afrique représente moins de 4% des émissions cumulées mondiales, mais subit certains des impacts les plus violents. À la COP29 de Bakou, l'accord financier de 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035 avait été qualifié d'insulte par les délégations africaines et insulaires. On est très loin des 1300 milliards qu'elles réclamaient.
Une question un peu plus large, Sacha. Est-ce qu'on peut vraiment sortir des fossiles dans le cadre du capitalisme actuel? Parce que quand je vois les profits dont on parle, je me dis que ces entreprises ont toutes les ressources pour bloquer politiquement, médiatiquement, juridiquement, toute tentative sérieuse.
C'est la question centrale, et tu connais ma réponse. Tant que la production énergétique reste aux mains d'acteurs privés dont la rationalité est la maximisation du profit, l'intérêt général climatique restera secondaire. La planification écologique suppose un contrôle public, démocratique, des grands moyens de production énergétique. Ce que des auteurs comme Andreas Malm appellent un léninisme écologique, ou ce que d'autres formulent comme un Green New Deal radical, sans appropriation sociale, on bricole.
Et pourtant, on voit même des économistes plutôt centristes commencer à dire que le marché seul ne peut pas régler le problème. Le rapport Stern, ça date de 2006 déjà.
Oui, mais entre le constat et l'action, il y a le rapport de force. Et ce rapport de force, aujourd'hui, penche très clairement en faveur des majors fossiles, surtout avec l'administration Trump et le retour en force des climato-sceptiques en Europe, en Italie avec Meloni, potentiellement en France avec le RN. Santa Marta, c'est une tentative de contre-feu. Modeste, mais nécessaire.
Pour résumer ce qu'il faut retenir aujourd'hui, premier sommet international dédié à la sortie des fossiles en Colombie, sans les climato-sceptiques, ce qui est à la fois une innovation et un aveu d'échec des COP. Une voix forte, celle de Kumi Naidoo, qui rappelle que le climat est aussi un combat de classe et antiraciste et qui pousse pour un traité de non-prolifération des fossiles. Et un chiffre choc d'Oxfam, 3 000 $ de profit par seconde pour 6 entreprises qui rappelle qui gagne dans le statu quo actuel.
Ce que je retiendrai, c'est que la bataille climatique est désormais frontalement politique. Il n'y a plus de consensus possible. Il y a un camp qui veut maintenir la rente fossile et un camp qui veut en sortir. Santa Marta acte cette polarisation. Et de notre côté, citoyens, on a intérêt à choisir lucidement notre camp.
Sur cette note ô combien optimiste, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. À bientôt, Sacha.
À demain, Alex.